102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Les prises précisément midi et une minute. J'ai eu de la misère à le dire un peu. C'est la vie.
C'est peut-être parce qu'il fait froid, t'as la bouche gelée.
Ouais, c'est ça. 418-971-101 si vous voulez nous rejoindre. BLVD.fm, c'est la web radio. On retrouve également les meilleurs moments de l'émission. L'application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. D'ailleurs, téléchargez-les. Des petites notifications, des fois bien intéressantes. Et twitch.tv/BLVD/FM. Les filles, on jase de quoi? Le plus souvent, autant en hiver qu'en été au Québec.
La météo!
La météo! Et voilà! Donc, on va en jaser de la météo parce que c'est moins 23 avec le refroidissement éolien présentement. Moins 17 au thermomètre. On prévoit un maximum de moins 14. Demain, c'est moins 6 avec une neige intermittente. Des vents de 20 km/h. On parle d'une accumulation de 2 à 4 cm. Et moins 5 avec de la neige également pour jeudi. Donc, préparez-vous à pelleter. Aujourd'hui, mettez-vous une petite cagoule au visage si vous êtes piéton comme Max Larouche parce qu'il fait frette pas à peu près. Je vous le dis. Et là, on a perdu quelqu'un de très important au Québec. On en parle dès le début de l'émission. Il s'agit de Béatrice Picard, mieux connue sous le nom de Marge Simpson, parce qu'elle était la voix de Marge durant 30 ans, parce qu'elle s'est vue.
La voix officielle de Marge Simpson.
Ça me fait de quoi?
C'est une femme qui, en plus, quand tu l'écoutes parler, tu peux entendre dans son grain de voix que ça peut être une Marge
Vraiment?
Simpson. Mais quand elle commence à parler comme son personnage, puis c'est le visage que tu vois finalement de Béatrice Picard, ouais. Ça démontre l'ampleur de son talent. C'est une femme aussi qui a prêté sa voix aux pierres à feu dans les années 60. Mm-hmm. Elle faisait la mère de Delima. Très active dans l'univers du doublage. Honnêtement, elle en a fait une grande partie de sa carrière, mais plein de distinctions aussi. T'sais, c'est une femme qui a enrichi notre culture. Elle a eu le titre d'officière de l'Ordre national du Québec en 2012. Elle a été aussi membre de l'Ordre du Canada. Si on retourne il y a plusieurs années, peut-être dans ta ouais. génération, Jeff, mais encore là, avant, on pense aux survenants, aux petits noms du père Gédé, de la rue de Lens, Cré-Basile, je pourrais aller dans quelle famille, dans Saint-Forien, grand-papa du tac au tac. Là, si on s'en va un petit peu plus près de nous, un gars, une fille, Virginie, Unité 9, Les Jeunes Loups et récemment District 31. C'est une femme qui a traversé les générations, les années.
Oui, elle a joué vraiment dans des très, très grandes téléséries ici au Québec, là, les dernières que tu as nommées. Unité 9, District 31, là, c'est vraiment des téléséries qui ont marqué l'imaginaire québécois. Là, alors que, surtout Unité 9, on est dans une prison pour femmes. Là. Je me souviens, c'était très, très, très regardé là, dans les foyers québécois.
C'est une femme qui a fait simultanément de la radio, de la télévision, du théâtre, du chant, du doublage. Et bien sûr, du cinéma. En 1929, c'est là qu'elle a eu la piqûre pour tout ce qui est la culture, mais mm-hmm. du côté de Paris. Puis après ça, elle est revenue et elle a dit « C'est ça que je fais. C'est ça que je vais faire de ma vie. » Puis elle a marqué à peu près tout le monde. Écoute, la dernière fois qu'on a vu Béatrice Picard peut-être imprégner ses rôles puis imprégner son métier, c'est en mai 2017. Elle a eu un malaise sur scène au théâtre Jean Duceppe, c'est du côté de Montréal. Elle jouait dans Harold et Maude. Puis là, 3 jours plus tard, elle dit qu'elle s'était remise de ça, mais tu sais, concrètement, sa santé en avait pris un coup à ce moment-là.
Exactement. Donc, 93 ans, si...
16.
96 oui. ans, wow! Extraordinaire. Ici, par texto, on a Yvon Deschamps et Dominique Michel. Ça va être les deux grands pans de l'histoire qui vont partir peut-être bientôt, qui vont partir.
C'est parce qu'on en parlait, Max et moi, puis on disait, c'est qui ça. Est-ce qu'on oublie? T'sais, Serge Fiori, on savait qu'il vieillissait, on savait qu'il était malade, mais dans notre tête, c'est un immortel. Mm-hmm. Serge Bouchard, t'sais, pour certains qui connaissent l'homme aussi, c'est un gars qu'on est allé rechercher au niveau de l'opinion en pleine pandémie pour le transfert de savoir, la vision du monde, etc. C'est un grand penseur, c'est un anthropologue, hyper intéressant. On l'a perdu. Ouais. On commence à perdre
Exactement.
Les pas importants de la culture qui était la même pour tout le monde.
Ouais.
On était encore dans ces années-là avec Béatrice Picard et tout ça, dans les rendez-vous télévisuels où tout le monde partageait le même moment, donc partageait un peu l'admiration qu'on avait pour ces gens-là.
Exactement. Donc, Béatrice Picard qui est décédée, on souhaite les sympathies à la famille et à la communauté artistique ici au Québec. Pascal, ça va bien?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi.
Ben oui, ça va super bien. On a une belle émission. On va parler avec Roger Ferland, notamment de cette poursuite de 2 millions de dollars de la famille du jeune Noran, 15 ans, qui a été abattu par la police de Longueuil, par un policier à Longueuil. Donc, on va parler de ça. Également des excellentes statistiques à Québec au niveau des arrestations liées aux gangs criminalisés. Extraordinaire travail en 2025 de
plus
notre service policier.
Ah, ouais.
On peut vraiment être fiers de notre service policier. On va avoir Mario Fafard également, un ingénieur, un ancien professeur également à l'Université Laval, qui va venir nous parler du pont de Québec, du tablier qu'il faut remplacer, mais qu'on ne remplace pas. Est-ce qu'on va être à risque? C'est une bonne question à se poser. Puis est-ce qu'on va le remplacer en même temps que le pont Pierre-Laporte puis boucher tout? Pont Pierre-Laporte est prévu pour 2037. Faudrait peut-être commencer par le pont de Québec. Donc, on va parler de ça avec lui. Et Rémi Villemur va venir également nous entretenir, notamment sur la confiance, ou je devrais dire la non-confiance des jeunes envers les médias, des jeunes de 18 à 34 ans envers les médias traditionnels, et aussi du mot « masculinisme ». Qui a été recherché 8 fois plus souvent en 2025 qu'en 2024. Pourquoi donc? Netflix, adolescence? Est-ce justement une raison? Rémi a sa petite opinion là-dessus. Mais avant, on commence avec le caucus avec Antonine Iaccarini.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Ah, Bernard. Jason, autre chose que Pablo. On va parler de Bernard Drainville.
Ouais, le Pablo prend une pause aujourd'hui, tout le monde.
Ouais, je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment. Est-ce que vous ennuyez de Pablo Rodriguez? 418-971-1021, s'il vous plaît. Really, oui, j'aurais aimé ça, moi. Pablo qui fait une conférence.
Ouais, désolé pour aujourd'hui.
Non, pas grave.
Aujourd'hui, on vit au rythme de l'accélération des projets.
Oui!
Alors, c'est aujourd'hui que sera déposé un projet de loi qu'on surnomme Q5. Mm-hmm. C'est un surnom parce que les projets de loi à Québec ne commencent pas par Q. Là. C'est une référence à ces 5 projets de loi qui avaient été adoptés dans la courte session parlementaire du printemps par le gouvernement Carney, qui vise à accélérer les projets d'intérêt national. Donc, Québec qui veut un peu s'accrocher à la locomotive fédéral pour faire son bout. Parce qu'on le sait, on a de la difficulté au Québec à faire atterrir des grands projets. Il y en a beaucoup qui font patate, soit que c'est trop long, le financement n'arrive pas, en fait, l'argent n'arrive pas en même temps que les autorisations. Il y a l'acceptabilité sociale aussi, qui est un concept flou et mal défini, qui est utilisé là, selon le bon vouloir de tous et chacun. T'sais, par exemple, le tramway à Québec, c'est un projet qui avait été refusé par le BAP, mais tous les gens des partis de gauche sont pour.
Les
sondages sont contre, mais on est pour. En tout cas, bref,
on est pour, mais finalement, on vote à 50% pour Bruno Marchand, puis on va le faire.
Donc, ça demeure super flou, cette question d'acceptabilité sociale, mais une chose est sûre, c'est que François Legault veut profiter du momentum pour faire certaines actions que je pense qu'il a toujours un peu rêvé faire.
Oui, en effet.
Donc, simplifier des processus, accélérer des autorisations environnementales, notamment. Dans les dernières semaines, depuis le discours d'ouverture du PM à la suite du remaniement ministériel, il avait donné le mandat au ministre des Finances, Éric Girard, de faire le tour un peu pour voir sont où les obstacles, sont où les irritants. Donc, d'un côté, puis j'arrive à Bernard dans pas long, parce que je sais que t'as hâte qu'on parle vraiment plus de Bernard.
Ah, j'ai tellement hâte, Bernard!
Donc, on va essayer de trouver des façons que les projets aillent plus rapidement. Maintenant aussi que le fédéral a dit qu'il allait accélérer, bien, c'est un momentum qu'on doit saisir. On s'attend à ce que ce projet de loi-là s'adresse beaucoup à Hydro-Québec parce que c'est un peu la pierre angulaire de comment François Legault veut faire face à la crise commerciale, au soubresaut économique. On veut donner beaucoup, beaucoup de grands projets à Hydro-Québec.
Mm-hmm.
Moi, j'espère que ce ne sera pas seulement ça, par contre, parce qu'on a des entreprises privées qui voudraient venir investir, mais qui se butent à un paquet de choses. On n'a pas un environnement d'affaires très facile.
Ah non, on a une fiscalité très déficiente, là. On a une bureaucratie imposante. On a une bureaucratie beaucoup trop grande. Et là, on ajoute à ça justement tous les délais pour mettre sur pied un projet.
Délais, manque de coordination. Il faut dire aussi, on fait partie, on a la tarification carbone par la bourse du carbone. Donc, si tu es un grand pollueur, en plus, tu dois payer. On peut ajouter à ça nos lois sur la langue française quand tu es une entreprise étrangère, et c'est bien correct. Mais tout ça additionné fait que c'est pas toujours évident d'avoir des projets qui atterrissent. En parallèle du projet de loi d'Éric Girard, qu'on va voir cet après-midi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Oui, 15h, il va être en entrevue avec nous à Marceau le matin, demain matin, 8h30.
On va pouvoir vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner, puis concrètement, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce qu'on va voir des grands projets qui vont s'accélérer? Parce que c'est un peu ce qu'on se demande quand on regarde au fédéral. On a une liste de projets qui a été dévoilée. Mais est-ce que ça va vraiment accélérer? Est-ce qu'on va voir les choses aller plus rapidement? Tout le monde se pose la question. Et en parallèle de ce projet de loi d'Éric Girard, il y a aussi Bernard Drinville, ministre de l'Environnement.
Avec son PowerPoint hier, sa baguette d'enseignant. Ben, tu sais, il s'ennuie.
Il avait des napperons, là, Jeff. Il avait des napperons.
Puis là, il s'ennuie d'être ministre de l'Éducation. Donc, Bernard nous a
le
fait
pédagogue.
Un cours pédagogique sur les délais en environnement.
Ben, c'était bon. Là, les gens, ils rigolaient un petit peu là, avec les tableaux puis tout ça, mais c'est de la bonne communication, c'est clair.
Oui. Non, mais vraiment, vraiment clair.
Projet de règlement. Donc, les règlements, c'est comme des lois, mais qui n'ont pas besoin d'être votées par l'Assemblée nationale, finalement. Par contre, ça peut faire l'objet de consultations, ce qui va être le cas. Parce que quand on regarde tout ça, on veut aller plus vite, c'est bien le fun.
Oui.
Mais en parallèle d'aller plus vite, on coupe des gens dans la fonction publique, on est d'accord?
Exactement.
Donc, là, si tu veux qu'on aille plus vite avec moins de monde, mettons.
Est-ce qu'on va tourner les coins ronds? C'est la grande question.
Puis là, évidemment, le gouvernement va dire, bien sûr que non. On va être plus efficace.
Ouais, on va être plus efficace. On écoute Bernard Drinville à cet effet-là.
Puis le processus, qu'est-ce que tu veux? Celui qu'on change, là, il date de 1972. Ben là, à un moment donné, c'est normal qu'on veuille le moderniser. Puis, moi, je le dis, là, au début du processus, il y a une séance d'information. L'entrepreneur qui s'en va dans les communautés pour répondre aux questions, ça, c'est encadré par le BAP. Le BAP va tenir une deuxième séance d'information plus tard. Puis ça, c'est... s'il n'y a pas en plus des audiences publiques du BAP, fait que le public va être beaucoup impliqué.
Alors, on ne tournera pas les coins ronds, Antonine. Le public va être beaucoup impliqué. Moi, je veux pas qu'on tourne les coins ronds. Puis là, il y en a plusieurs qui pourraient dire, « Ben voyons, Jeff, ça n'a pas d'allure. Il faut accélérer les projets de le kit. » On a juste être meilleur dans nos projets.
Absolument.
S'il y a une instance, le BAP qui existe, justement, c'est parce qu'il y a lieu de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où.
Non, on a des lois environnementales au Québec desquelles on peut être fier. C'est plus dans la façon dont on coordonne le tout. Tu sais, par exemple, toi, tu as un projet, puis là, on te demande des exigences, mais on te demande des exigences qui arrivent à un moment où, dans le processus, ça fait en sorte qu'il faut que tu recules, que tu rembauches du monde. Là, on dit non, là, on te met sur pause, là, il faut que tu mettes du monde dehors. Tu n'arrives pas à planifier ton projet comme il faut. Donc, ça prend une bonne collaboration entre les ministères, entre l'État québécois et les entreprises. Il faut que les entreprises fassent leur bout aussi. Parce que, évidemment, là, il y en a des cabochons là, aussi.
Ben oui,
qui
exactement.
Présentent des affaires tout croche, qui ne remplissent pas les exigences. Puis après ça, ils disent, ben là, ils arrivent face au ministère, puis ils disent, moi, c'est pour demain matin. Le ministère, il dit, excuse, buddy, tu n'as pas fait tes devoirs. Puis si tu me l'avais demandé avant, on te l'aurait dit. T'sais, c'est une coordination de meilleure communication entre les deux. Puis en passant, quand on parle de mieux collaborer entre l'entreprise puis le ministère, il y a des gens qui trouvent que c'est bien terrible, là, ça, là. Ministère collabore avec l'entreprise privée,
Dieu! Mais non, mais ça va juste accélérer les choses. Et l'exemple à Bernard Drinville est très bon. C'est que je vais arriver justement avec mon projet, moi le présenter à la population. La population va dire, hey, ça comme enjeu, merci, bonsoir. On y répond, on passe par le BAP et on y va. Un des bons exemples à ça, c'est le projet 4 bourgeois des frères Trudel et également le projet Lot Dorchester des frères Trudel où on est allé s'asseoir avec la population, on a regardé qu'est-ce qui allait pas, on est revenu avec un nouveau projet. Bon, évidemment, il va toujours avoir une portion de la population qui va être contre,
et voilà.
Mais on vient quand même chercher l'adhésion de la majorité des gens faisant de cette façon-là.
Il va falloir éventuellement mieux définir c'est quoi l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. C'est pas
en effet.
Tout le monde est d'accord de quelque chose.
Ça arrivera jamais, ça.
Ça n'arrivera jamais. Et, tu sais, il y a des projets plus compliqués que d'autres. Un oléoduc, par exemple, qui traverse plein de communautés, c'est un projet d'intérêt national, mais là, ça peut pas juste être le village dans lequel... Tu sais, c'est pas facile, c'est pas si simple que
non,
ça de définir l'acceptabilité.
Mais là, hier,
sociale.
En entrevue avec Paul Larocque dans l'émission Le Bilan, j'ai été surpris parce qu'un troisième lien, ça a l'air compliqué.
Bon, écoutez, là, Paul, vous m'amenez sur un terrain qui est quand même délicat, mais...
Non, c'est
on jase. Il y a un projet, effectivement, qui avance bien. Mon collègue Jonathan, le ministre des Transports, Jonathan Julien, va revenir après les fêtes avec un budget cible, puis avec aussi un tracé définitif.
Oh, Alex. Bon.
Alors là, mettons que le projet avance, Et puis, on s'en va éventuellement en appel d'offres, puis on donne le contrat. Bon. Alors, le promoteur, l'entrepreneur, donc, qui ferait le projet, devrait déposer un avis d'intention, dire aux gens de la grande région de Québec-Lévis, Chaudière-Appalaches, voici à quoi ressemblerait le projet. Okay. Il commencera à travailler avec les fonctionnaires, comme je vous l'ai décrit, et puis il y aurait des séances d'information avec les gens des deux côtés du fleuve.
Et
on avancerait okay. comme ça.
C'est bien en théorie ce que Bernard Drainville a proposé, mais à la première question pratique hier de Paul Larocque, on est-tu prêt?
Bien, pour le troisième lien ou pour changer nos processus environnementaux?
Les deux. Le troisième lien, je pense pas, parce que mettons qu'on ferait le projet.
Oui, mais là, c'est pas fin, parce qu'il prend, il dit, OK, on va prendre tes processus environnementaux, puis applique-les sur un projet troisième lien qui n'existe pas, tu sais, puis qu'on sait toujours pas c'est quoi le tracé définitif. Fait que pauvre Bernard, j'avoue que c'est un peu périlleux comme question. C'est des longs processus. Tu sais, par exemple, un projet qui est plus concret en ce moment, c'est celui du pont de l'île d'Orléans.
Oui.
Qui est bien avancé maintenant.
Pour être concret, c'est concret.
C'est concret.
C'est là, puis le trafic aussi.
Mais ça a été très complexe au niveau environnemental, hein, parce que même si le pont existe déjà, bien, on réévalue un projet de zéro quand on a ce genre de projet-là. Et je vous annonce que dans le fleuve, bien, il y a des habitats d'animaux notamment et de poissons, notamment le bar rayé. Bon, peut-être que vous ne vous réveillez pas la nuit en vous inquiétant du bar rayé, mais à chaque fois qu'on fait un projet, ça a des impacts environnementaux. Puis quand il y a une espèce dans le fleuve qui est endommagée ou qui est affectée par un projet, bien, ça a un impact sur tous les écosystèmes. Donc, évidemment, quand tu es au ministère de l'Environnement, tu regardes ça, puis toi, ta responsabilité, c'est ça. Mais des fois, à un moment donné, tu dis là, le pont, il va se construire anyway. On est-tu d'accord qu'on va pas finir par pas faire de pont à
Orléans? On pas le choix.
On cherche des manières de mitiger les dommages qu'on va faire. Quand tu détruis un habitat, par exemple, dans le Saint-Laurent, tu es supposé de réhabiliter ailleurs, d'essayer de compenser, etc. Ça se fait pas en deux minutes, évidemment. Donc, faut pas non plus avoir la pensée magique, mais les non-sens, là, ceux-là qui servent à rien, là. Hey, moi, j'ai un exemple. Je peux pas le donner. Je donnerai pas de nom, là.
OK, mais vas-y.
Mais, tu sais, à un moment donné, un projet, genre, vraiment cool de logements sociaux. Ouais. OK, tu sais, des logements abordables.
Là, on en a-tu besoin, tu penses?
Mais là, il y a un fonctionnaire, à quelque part, qui veut une étude sur l'impact sur les écureuils d'un parc qui est à des kilomètres de là.
Ouais, là,
mais
ça
le
va
terrain,
être correct, là.
Le terrain sur lequel on veut faire des logements, il est contaminé déjà. Mais là... Non, il faut quand même que tu me fasses une étude sur la contamination possible des écureuils due à tes travaux.
Non, alors ça, c'est du niaisage.
Tu sais, là, je veux dire...
Je me demande ce que ça y donne à cette personne-là. Ouais. Il y a clairement quelque chose à aller chercher.
C'est la procédure, c'est la procédure. Tu sais, ça...
Ouais, des gens qui réfléchissent pas et qui font juste regarder le carnet de procédure, là, en effet.
Tu sais, tu veux construire des logements sociaux, c'est un terrain contaminé. Je veux dire, y a-t-il un écureuil qui est heureux d'aller se contaminer sur un... Ah, c'est pas grave, il est déjà là. Fait que ça, on regarde pas ça, mais on va regarder, par exemple, ton projet qui va être rempli davantage. Donc, en tout cas, bref, on souhaite que M. Drainville réussisse son pari sans tourner les coins.
Exactement. Continuons sur Bernard Drainville parce que tant qu'à l'avoir à l'émission Le Bilan, Paul Larocque a repris notre thématique d'émission en disant « M. Drainville, on jase, là. » On jase.
On jase.
Allez-vous vous représenter en 2026?
Vous serez candidat, vous, là, dans, au prochain... Est-ce que c'est déterminé, sûr, 100% sûr?
Ah, c'est déterminé. Moi, là, je suis fier de représenter Lévis. Il se passe des belles choses à Lévis, Paul. C'est pas juste la Lévis, là. On a fait des beaux projets.
OK.
On a fait des beaux projets sur Guillaume Couture, des voies réservées. Mm-hmm. On va élargir la 20 vers l'ouest.
Ça a pris 8 ans.
Une nouvelle école va voir le jour. On commence la construction. Je travaille sur un projet, deux projets en santé.
Une nouvelle école va voir le jour parce qu'il y en a une qui s'est effondrée.
Ouais. Détail.
L'autoroute 20, on va le faire. Oui, c'est censé être fait en 2025. Mais on va le promettre à la prochaine campagne électorale. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est...
Ouf. Hey, le souper!
Hey, boy!
Ben, vois, mettons, là, t'es ministre de la CAQ en ce moment, là.
Ouais.
Tu t'attends à te faire poser la question à chaque fois que tu pars en entrevue, puis tu trouves une réponse.
C'est clair, comme
Denis. Écoutez, je suis en réflexion, mon intention, c'est de me représenter, je veux pas de quoi de même. Le grand soupir, puis est-ce que j'ai compris qu'il a dit c'est déterminé?
C'est déterminé. Parce que Paul Larocque, tu lui as demandé est-ce que c'est déterminé? Il a
donc
dit,
oui.
Ouf! Mais non, c'est déterminé, on sait pas quoi. C'est oui ou non? C'est juste déterminé.
Eh,
Toi qui es une spécialiste des coms, tu aurais conseillé quelque chose d'autre, hein?
Je suis en réflexion. Mon intention, c'est de me représenter.
C'est ça.
C'est tout. Point.
Exactement. Maintenant, la question qui tue, est-ce qu'il est toujours souverainiste?
On jase. Je vous cite. Là. On jase, M. Drainville. Oui. Bon.
On jase.
L'élection arrive, le PQ prend le pouvoir, il y a un référendum. Vous étiez un fervent indépendantiste. Êtes-vous encore?
Ben oui, mais... Les questions hypothétiques, Paul, tu sais très bien qu'on ne répond pas à ça.
Non, ma question n'est pas hypothétique.
Puis il y en a. Regarde, il n'y en aura pas de référendum.
Non, mais êtes-vous indépendantiste?
Il n'y en aura pas de référendum. Il n'y en aura pas de référendum parce que moi, je pense qu'à la fin, les Québécois vont se dire on n'ira pas voter pour un parti qui nous propose un référendum perdant. Ce serait vraiment. Écoute, ça n'a pas de bon sens d'aller voter pour un parti qui nous propose un référendum. Qu'on risque de perdre, de perdre. Hey, moi, là, je suis à Lévis, je travaille pour aller chercher des contrats du fédéral, pas
l'argent du fédéral.
On est allé chercher le Polar Max, le brise-glace polaire, les investissements actuellement, le chantier, ça se modernise. Il y a 3 navires actuellement qui sont en rénovation sur le chantier. Moi, je travaille pour aller chercher des contrats au fédéral, notamment des contrats militaires. Penses-tu que le fédéral va avoir le goût de nous donner des contrats à Lévis si on a à Québec un gouvernement qui veut se séparer du Canada?
Pascal Bernard est achetable.
Mais il est habile. Il est tellement habile dans sa communication en ce moment parce que je me dis, si jamais il sautait de la CAQ et voulait aller au sein, mettons, du Parti québécois, il a quand même pas dit que c'était inadéquat. Il a dit que c'était pas le moment en ce moment parce qu'on va négocier des budgets fédéraux. Au début, je l'écoutais, je me dis, il pourra pas migrer vers un Parti québécois si jamais c'est dans ses lubies d'y retourner, là.
Moi, je t'avoue être en désaccord avec toi. Je vais écouter Antonine, puis après ça, je donnerai mon opinion.
Oui, mais c'est intéressant.
Moi aussi, je suis en désaccord parce que, premièrement, je pense pas que Bernard veut retourner au PQ. Je pense pas que c'est ça l'objectif. Ce qu'il essaie de faire, c'est de faire la gymnastique nécessaire pour pas être en contradiction avec ses idées du passé ou quand il était au Parti québécois. Fait que là, il trouve une espèce d'avenue entre les deux qui dit que c'est pas le moment, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas parce qu'il veut retourner au PQ, c'est juste pour pas avoir l'air d'un imbécile qui a complètement changé son fusil d'épaule.
Un genre de girouette. Mais je disais pas qu'il voulait repartir au Parti québécois. Mais si la CAQ roule puis lui, il décide de sauter du bateau, c'est pas fermer une porte. C'est quand même habile au niveau politique.
La porte est fermée. Là. Mais il a le droit de voter oui après. Là. Mais on s'entend qu'il reviendra pas au bateau amiral.
Moi, c'est de sauter sur l'argent du fédéral fait.
Ça, je trouve ça terrible.
Ça, j'ai trouvé qu'il allait trop loin.
Ben oui.
Là-dedans.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, qu'il va trop loin dans le sens que ça a toujours été le combo.
On peut pas se séparer, on veut l'argent du fédéral. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu gênant à dire ça?
T'sais, ça a toujours été le combat des gens souverainistes de dire hey, c'est pas grave, on va récupérer l'argent pour on va mieux la gérer.
Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ils se disent juste je peux pas laisser tomber les projets pour lesquels on a travaillé. Puis c'est vrai qu'il est allé chercher de l'argent fédéral. Je sors de la personnalité de Bernard Drainville. Je sens juste qu'il marche sur des œufs puis que c'est vraiment de pas se faire snapper d'une manière ou d'une autre.
T'as raison qu'il marche sur des œufs. Et c'est étonnant. On dirait qu'il a été pris de court par 2 questions qui me semblent évidentes. Allez-vous vous représenter? Êtes-vous toujours souverainiste?
2 questions de base.
Peux-tu m'expliquer pourquoi je me suis fait péter tympan par un soupir aux deux?
Ben c'est ça, c'est 2 questions de base.
Voyons, c'est de base. Puis je pense qu'il aurait pu répondre directement. Écoutez, moi, je pense pas qu'il peut y avoir un référendum parce que je pense que les Québécois savent que c'est pas le moment en ce moment. On est dans une crise commerciale, l'économie va mal. T'sais, moi, je suis pas là-dessus présentement. Puis un troisième référendum perdant, ce serait terrible. Point. Donc, de là, après ça, à faire des liens entre l'argent du fédéral, puis soupirer, puis oulala, puis... Ben voyons. Puis c'est une question hypothétique. Ben quand t'étais souverainiste, c'était pas mal plus hypothétique, le référendum. Là, on n'en promettait pas. Puis tu disais oui, là.
Ben, on était dans les conditions gagnantes de Pauline. Tant qu'à être dans la souveraineté, Ruba Gazal!
J'entends Paul Saint-Pierre Plamondon parler d'immigration et je vois se bâtir un camp du oui qui exclut. Un camp du oui, mais... renfermé sur lui-même. Si l'autobus du Parti québécois est trop petit pour tout ce monde-là, eh bien, nous, à Québec solidaire, on va louer des trains orange, puis on va le faire notre pays vert, inclusif et rassembleur.
Il y en a un qui a sauté en bas du train orange?
Oui, ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a envie d'embarquer dans
ce train-là.
C'est
pas tout le monde qui a envie d'embarquer dans le train orange. Donc, on a un commentaire ici par texto en disant « Bernard Drainville veut faire pitié ». Oui, je pense que Ruba Gazal aussi tentait de faire pitié, mais là, le train orange se vide. Qu'est-ce qui se passe, Antonine? Explique-nous ça.
Bon, tout le monde s'en fout un peu, le Québec solidaire, ces temps-ci. Et c'est normal, étant donné que, évidemment, ça va pas très bien dans les sondages. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ont eu beaucoup d'attention pour un parti qui était là, à 8 % dans les sondages. Mais il se passe quelque chose quand même d'assez important, je pense, chez Québec solidaire qu'il faut souligner. Il y a eu le départ de Vincent Marissal. Il y a pas mal de monde qui ne se représente pas aussi chez Québec solidaire. Et là, la dernière tuile qui leur est tombée sur la tête, c'est Jimmy Thibodeau. Vous ne le connaissez pas et je ne le connaissais pas non plus, qui a été co-porte-parole du collectif Option nationale de QS. Ça, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques années, Option nationale, parti indépendantiste qui s'était séparé là, du PQ sous le leadership de Jean-Martin Hossan, a fusionné avec Québec solidaire il y a quelques années. Et il y avait une frange ON chez QS. Catherine Dorion et Sol Zanetti en faisaient partie notamment. Et là, Jimmy Thibodeau, qui publie une lettre ouverte ce matin, et qui dit qu'il ne peut plus défendre le souverainisme de Québec solidaire. Il quitte le navire et il invite les indépendantistes à se joindre au PQ. Donc, il déplore que QS attaque constamment le PQ, diabolise le PQ. L'extrait que tu nous as passé juste avant le démontre.
Ben oui.
Quand il y a eu l'élection de l'autre co-porte-parole, Sol Zanetti, cet automne, Ruba Gazal a tenu encore une fois des propos très négatifs envers le PQ. Disant que c'est un
jamais
oui, mais...
en répondant aux questions aussi là, des journalistes.
Et de dépeindre le Parti québécois comme étant un parti intolérant, qui veut faire un pays, mais qui n'est pas pour tout le monde. Tout ça. Le PQ ne se gêne pas non plus pour être à l'attaque envers QS, mais pas autant. Ça ne marche pas dans les deux sens. Oui, le PQ, on sent de l'animosité contre QS, mais passe pas autant de temps à attaquer QS que QS passe de temps à attaquer le PQ. Le PQ attaque plus la CAQ que les libéraux.
PSPP aime ça répondre à QS. Là, mais il laisse Vincent Marissal présentement faire le travail.
Puis, on peut se demander, tu sais, est-ce que c'est gagnant de promettre un référendum dans un premier mandat? Est-ce que c'est gagnant? Bien, là, c'est une autre démonstration que oui, ça porte ses fruits, parce que si les indépendantistes qui sont chez QS et qui se disent, c'est pas à QS que ça va se faire, l'indépendance. Parce qu'il y a une majorité d'électeurs qui votent pour QS qui ne sont même pas souverainistes. Et ce que Jimmy Thibodeau dit, c'est qu'on a deux porte-parole qui sont résolument indépendantistes. Hein? Ruba Gazal et Sol Zanetti, ils en parlent beaucoup d'indépendance, oui. Et on doit leur donner. Mais lui, ce qu'il dit, c'est « Je ne crois pas que même avec deux co-porte-parole, ce parti-là va vraiment travailler vers la souveraineté. Son jeu, c'est d'attaquer le PQ, d'affaiblir le camp du oui, finalement. Donc, invite les gens à se joindre au PQ. Et c'est pas le seul, hein, parce qu'il y a une autre dame qui s'est faite connaître cette année pendant l'élection partielle dans Terrebonne. C'était la candidate de QS, Nadia Poirier, qui avait été laissée complètement elle-même pendant la...
ça, c'était épouvantable. Et là, elle travaille pour Catherine Gentil-Cœur qui a gagné.
Absolument. Donc, elle a joint les rangs du PQ également. Il y a d'autres anciens candidats aussi qui flirtent ouvertement avec le PQ. Je pense à l'ancienne candidate dans Saint-François qui est médecin et dont le nom m'échappe terriblement présentement, mais tu sais de qui je parle.
Yes.
Il y a pas mal de gens qui veulent revenir vers le PQ. C'est sûr que le PQ est premier dans les sondages. Hein. C'est peut-être aussi une partie de l'explication. Mais je pense que cette idée de promettre un référendum dans un premier mandat pour les gens qui votaient pour QS, mais pour qui l'indépendance est importante, peut-être que ça va jouer dans la réflexion d'ici 2026.
Dire que voilà, même pas 4 ans, on pensait que le PQ était mort, que QS allait gagner, mais allait gagner ce combat et là, ça a complètement viré de situation. On termine avec ce qui est pour moi un scandale qu'on pourra continuer à suivre cette semaine, mais c'est les camionneurs Inc., les chauffeurs à rabais, parce que là, il y a un proche de Mark Carney qui était assis à 2 chaises de lui à son assermentation.
Faut pas dire qu'il le connaît pas, là.
Ben non, exactement.
Il y avait 40 personnes dans cette assermentation-là en passant.
C'est ça. Qui travaille justement à faire en sorte que le gouvernement laisse pas mal passer ça, les chauffeurs à rabais.
Exactement. Un donateur libéral fédéral, Tejpreet Dulat, qui est porte-parole du Canada Truck Operators Association et qui fait du lobbying activement pour qu'on ne serre pas la vis aux entreprises qui embauchent des chauffeurs à rabais. Je veux juste vous rappeler qu'il y a une augmentation de 35 % d'accidents qui impliquent des camions en ce moment sur nos routes. Même les États-Unis nous demandent de resserrer la vis parce que c'est des vrais dangers publics. C'est des gens qui ne sont pas formés, qui ne respectent pas le code de la route. On sait aussi que Québec avait sa part de responsabilité puisque les contrôleurs routiers ont été neutralisés pendant un bout de temps. C'est en train de se régler, mais il y a une partie de la réponse qui est à Ottawa. C'est à l'Agence du revenu de faire de la surveillance. Et cette association-là, là, dont M. Dulatte est le porte-parole, pousse pour qu'on ne serre pas la vis, qu'on ne donne pas de pénalité, et pousse aussi pour qu'on ne resserre pas la vis sur l'immigration non plus. On veut le plus possible. Ce qu'on veut, là, c'est des étudiants étrangers. Mais c'est drôle, moi, je pensais que les étudiants étrangers venaient ici pour étudier, puis après ça, pratiquer un métier. Ben non, on en veut. Pourquoi? Pour qu'ils conduisent des camions. Je vous annonce que c'est pas tous des gens qui étudient en camionnage. Là,
non, mais ben, ouais, ben oui, mais on les fait étudier, mais on les fait étudier 48 heures, puis on leur donne un camion.
Exactement, puis après ça, go, vas-y, mon grand. Et je veux pas les stigmatiser, ces personnes-là. Mm-hmm. C'est des gens qui essaient de s'en sortir, d'avoir une vie meilleure. Ils se font dire, tiens, tu peux conduire un camion. C'est pas eux personnellement, mais comme pays, on a une responsabilité de s'assurer de mettre les balises nécessaires pour pas que des camionneurs soient des dangers publics. C'est hyper dangereux. Faire un accident avec un camion, là, t'as pas beaucoup de chance.
Oui, là, t'en as parlé au Québec. Moi, je trouve qu'on a pris nos responsabilités. Jonathan Julien fait un excellent travail dans ce dossier-là.
Ça a été
avec
long, mais là, c'est fait.
Oui, sauf que t'es... la défense de Jonathan Julien, il a récupéré un panier pourri de Geneviève Guilbeault.
Ben, c'est ça. Ça a été, le gouvernement l'a échappé. Là, Jonathan Julien c'est est ça. En train de le rattraper.
En Ontario, on a révoqué les permis. Donc, absolument. Au moins, on a fait une action concrète. Maintenant, est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est à suivre. Mais au Canada, c'est très laxiste là, de « Oh, on va donner des amendes, puis on verra. » Mais comme le porte-parole là, du Bloc québécois en matière de transport, Xavier Barsalou-Duval, disait « On donne des amendes, mais ils se repartent une compagnie sur un autre nom. »
Non, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Pas.
Et c'est l'Agence du revenu qui est responsable de serrer la vis. Je veux juste vous rappeler que c'est le bordel total à l'Agence du revenu du Canada. C'est pas vraiment rassurant.
Non.
Et de l'autre côté, ça lobby extrêmement fort. Et ça lobby sans être inscrit au registre de lobbyistes, mm-hmm. en passant. Là, dans l'article du Journal de Montréal, c'est, d'après moi, ils vont se dépêcher à mettre les choses en ordre. Mais ça lobby. Ils ont déjà obtenu que le gouvernement a retiré de son langage de dire « chauffeur à rabais » en passant.
Ah, imagine.
Ils disent plus ça, là.
Donc, comme si ce n'était pas une problématique, on l'a soudainement oublié. Ouais. Je veux pas jouer au complotisme, mais Pierre Poilievre parle souvent des investissements privés de Mark Carney qui dirige ses décisions. Bien là, on a un exemple concret qui nous prouve, malheureusement, que il y a de fortes chances que les amitiés et les investissements privés de Mark Carney ont une influence sur comment il gère le pays.
Et non seulement c'est dangereux, mais en plus, vous perdez de l'argent. Vous et moi, on perd de l'argent parce que c'est une baisse de recettes fiscales, donc d'impôts, de taxes, qui doit revenir dans les coffres de l'État qui ne sont pas là. Mm-hmm. Parce que les chauffeurs à rabais coûtent 20 % moins cher que les chauffeurs salariés. Et il y a pas mal d'affaires qui se fait en dessous de la table. C'est souvent des personnes qui ne sont pas toujours réguliers dans leur permis de travail, etc., qui sont très à risque d'être exploitées aussi. Mm-hmm. Donc, décidément, le gouvernement fédéral devrait s'atteler à ce dossier-là. Je pense que Xavier Barsalou-Duval ne lâchera pas le morceau, mais on dirait toujours à Ottawa, c'est long avant qu'on réussisse là, vraiment là, à créer à faire assez de vagues là, pour que quelque chose bouge.
Non, j'avoue, tu as entièrement raison. Les auditeurs sont d'accord avec nous. Il y en a plusieurs qui disent « Hey boy, on est dans un gros conflit d'intérêts avec cette situation-là. » Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à la suivre attentivement. Antonine Iaccarini, tu es en congé demain?
Ben oui, je suis en congé. Ben, ouais, vous allez vous ennuyer. Hein?
On va s'ennuyer au bout de Pascal, on va s'ennuyer. Ça n'aura pas de sens.
Ben oui, c'est sûr.
C'est puis qu'est-ce qu'on va faire. Antonine, qui est là du lundi au jeudi de midi à 12h30 pour le caucus Iaccarini, va être absente demain. On va s'y faire. On se parle jeudi en ondes, puis on se voit vendredi au party de Noël de la communication.
Oui.
Yes, sir! Après cette courte pause, c'est Roger Ferland qui vient s'installer. On parle entre autres de cette poursuite de 2 millions de dollars de la part de la famille du jeune Noran, 15 ans, qui a été abattu par un policier dans la ville de Longueuil. Donc, restez avec nous à l'émission On en jase sur Boulevard 101.